Bonjour à tous. J'ai réfléchi à ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Et je me dis, qu'est-ce que je peux apporter à une église que je ne connais pas encore assez ? De quoi cette église a besoin ? Je vous avoue qu'en 2 semaines, je n'ai pas réussi encore à établir un diagnostic. Vous vous en doutez, ça va prendre beaucoup plus de temps, plusieurs mois, peut-être au moins 1 année. Alors, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai médité. Qu'est-ce que j'apporte à cette église? Qu'est-ce que le Seigneur veut apporter à cette église? En fait, je crois, je suis convaincu que ce dont l'église a le plus besoin, en plus de la connaissance de Dieu, c'est d'amour. Et donc, nous allons parler ce matin d'amour, et j'ai intitulé le message aujourd'hui « Aimer ». Notre devoir et notre liberté. C'est un devoir et c'est une liberté. C'est ma première prédication en tant que pasteur proposant de l'Église. J'ai déjà prêché ici 3 fois, mais je n'étais pas encore le pasteur proposant. C'est la petite nouveauté. Et je crois, comme je viens de le dire en préambule, que l'amour est le thème le plus important d'une Église. Et c'est pourquoi je vais en parler. Rappelez-vous, quand des pharisiens demandent à Jésus, « Ah, parmi toute la loi et tous les commandements qui existent, lequel est le plus important ?» Que répond le Seigneur ?« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc en fait, aimer, c'est ce que Dieu attend de nous, dans le sens de c'est ce qui compte le plus, c'est le plus important de toute la loi. Et je crois que même sous la Nouvelle Alliance, ce commandement est toujours valable. Pourquoi ? Parce que le Seigneur l'a hérédité. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc en fait, l'amour est au cœur de ce qu'est l'Église, de son fonctionnement. Comme je me plais à le dire, c'est le médicament qui pourrait guérir la plupart des problèmes que peut rencontrer une église, et j'en suis convaincu. Alors, parler d'amour, c'est vaste. Je vous prends un exemple. J'aime mon fils, j'ai de l'amour pour lui. J'aime ma femme, j'ai de l'amour pour elle. J'ai utilisé le même verbe et le même mot, mais est-ce que je parle de la même chose ? Est-ce que j'aime ma femme de la même manière que j'aime mon fils ? Ben non. Pourtant, j'ai bien parlé de la même chose, j'ai bien utilisé le même verbe. En français, il n'y a pas de distinction, mais en grec, il y en a. Il y a 3 mots pour désigner l'amour en grec. Le premier, c'est « eros ». C'est l'amour romantique, l'amour passionné. L'amour plein de sentimentalité, qui a donné d'ailleurs en français le mot « érotique ». C'est celui qui occupe la place principale dans notre société. C'est l'amour que l'on voit dans les films, que l'on trouve dans les séries. Cet amour-là, il cherche à satisfaire ses propres désirs sans considérer l'intérêt de l'autre. Vous l'aurez compris, ce n'est pas de l'amour éros dont nous allons parler ce matin. Le deuxième que l'on trouve, c'est le plus fréquent. Il y en a 260 occurrences dans le Nouveau Testament, c'est le mot « agapé », l'amour et le verbe « aimer »« agapao » qui lui est raccroché. C'est l'amour de Dieu pour le monde, un monde qui lui est hostile, un monde qui ne l'aime pas, mais c'est aussi l'amour de Dieu pour ses enfants. Il est également utilisé pour décrire l'amour entre les non-croyants ou encore l'amour malsain pour les choses du monde. Et le troisième, c'est philia, avec son verbe philéo. On le trouve 26 fois dans le Nouveau Testament. C'est l'amour que Dieu a envers son Fils. C'est l'amour aussi que Jésus manifeste envers Lazare. Ou encore, c'est l'amour que les chrétiens ont pour Jésus. Donc vous l'aurez compris, si on n'utilise pas les mêmes mots et pas les mêmes verbes, c'est qu'il y a des différences d'amour. Si philéo indique un amour créé par amitié, et d'ailleurs le mot ami et le verbe embrasser partagent la même racine que philéo, agapé est un amour qui se traduit en acte et qui implique la volonté de chercher l'intérêt de l'autre. Philéo a pour antonyme la haine, quand agapé a pour antonyme l'indifférence ou l'égocentrisme. J'espère que ça vous permet de mieux les différencier. Le décor est donc planté. L'amour qui nous intéresse aujourd'hui est l'amour agapé. Et d'ailleurs, quand on fait des refrains fraternels, il y a la formule qui dit « Ah, on fait une agape ». C'est intéressant, hein ? On fait une agape. Est-ce que quand on fait un repas fraternel, on vit l'amour agapé ? Je l'espère en tout cas. Paul écrit dans le texte qui va nous intéresser aux chrétiens de Corinthe. On était tout à l'heure dans le chapitre 11, on va aller dans le fameux chapitre 13, un chapitre sur l'amour, qui est souvent lu d'ailleurs lors des mariages. C'est un texte qu'on aime bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Paul ici ne s'adresse pas à un couple, il s'adresse à l'Église, l'Église de Corinthe, quand il écrit ces mots. Mais il y a un lien entre les deux, car vous le savez, dans Éphésiens chapitre 5, Paul fait le parallèle entre ce mystère qui était inconnu de l'Église avant et qui est désormais révélé, ce parallèle entre l'Église et le couple, de la même manière que l'Église est l'épouse du Seigneur, cela se rappelle dans ce que l'on peut vivre dans un couple, la manière dont on aime l'autre, etc., et la manière dont l'Église doit aimer son époux, son Seigneur. Les chrétiens de Corinthe pensaient manifester leur amour par la spiritualité, par la sagesse, par la connaissance et le maniement des dons spirituels. Vous connaissez très bien les fameux chapitres 12 et 14 qui a polémiqué sur le fameux parler en langue. Et nous, l'église de Chambourcy, on met quoi en avant ? C'est quoi vraiment les trucs qui nous intéressent le plus ? Quel amour on pratique ? Est-ce qu'on pratique l'amour éros ? Philéo, agapé ? Lequel on pratique ? Celui pour satisfaire nos désirs ? Celui des sentiments amicaux ? Ou celui qui cherche l'intérêt de l'autre et qui nécessite de notre part des efforts ? Je vous propose donc deux questions aujourd'hui. L'amour, est-ce vraiment nécessaire ? Peut-être qu'on peut faire sans. Et le deuxième, c'est aimer, mais comment ? Comment on aime ? L'amour, est-ce vraiment nécessaire ? Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, dont je vais lire les trois premiers versets. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein. En effet, si je parlais la langue des hommes et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Et on va s'arrêter là d'abord. À quoi jugeons-nous un chrétien ? Qu'est-ce qu'on regarde quand l'un de nous dit « je suis chrétien » ? Son apparence ? Son charisme ? Aux dons spirituels qu'il a ? Certaines assemblées jugent les croyants à leur capacité à parler en langue. Mais d'emblée, dès le premier verset, Paul balaye cette idée. Ce qui compte, très clair, avec un refrain qui revient, « sans amour, je ne suis rien ». Ce qui compte, c'est l'amour. J'ai déjà répondu à la question que j'ai posée. L'amour tant dans le regard que nous portons les uns pour les autres que dans tout ce que nous transpirons. Sans l'amour, je ne serai rien. tous les dons spirituels, aussi impressionnants puissent-ils être, perdent toute leur valeur si on ne les exerce pas avec amour. Tout le monde peut être attiré par ce qui est extérieur. Un bon service qui met en avant celui qui le pratique. Un don spirituel spectaculaire, si tant est qu'il soit vrai. Une qualité mise en avant et qui nous en met plein la vue, même intérieurement. Autrement dit, qu'est-ce qui fait un bon chrétien ? Pour l'apôtre Paul, c'est la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui agit par amour. Paul énonce quatre domaines de compétences. Le premier, c'est la parole. Les chrétiens de Corinthe mettaient en valeur leur manière de bien parler et d'être attirés par les prises de parole charismatiques. Dans le paysage évangélique, nous pouvons facilement tomber dans les mêmes travers. De nombreux prédicateurs sur Internet sont reconnus pour leur manière de parler et ils attirent par leur capacité à enflammer leur auditoire. Lui, j'écoute parce que quand il parle, ça envoie, hein. Et parfois même, certains croyants ne viennent à l'église que pour les entendre parler. J'ai en tête l'exemple de Timothy Keller. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un pasteur évangélique américain très très connu qui a fondé une très grosse église à New York et qui s'est rendu compte que quand il prêchait, il y avait beaucoup plus de monde dans l'église. Autrement dit, ses paroissiens venaient quand c'était lui, mais quand c'était pas lui, ils venaient pas. C'est pour cette raison qu'il a décidé de partir de l'église. Il s'est dit, si vous venez pour moi, alors c'est que vous venez pour les mauvaises raisons. Ça doit nous interroger. Pour qui on vient ? L'apôtre présente ce qui est important en réalité. C'est l'amour. Sans amour, même quelqu'un qui parle très bien, ça ne sert à rien. Il y a des personnalités politiques qui sont très douées pour s'adresser aux foules. Mais pour quelle raison ? Peut-être des visées électorales. Peut-être pensent-ils à votre bien ou peut-être pensent-ils plutôt à leur propre position et à leurs intérêts personnels. L'amour est ce qui doit nous différencier du monde. Sans amour, je ne serai rien. C'est pas n'importe qui le dit, hein. C'est l'apôtre Paul. Le deuxième domaine, c'est la connaissance. Ah, le savoir est une arme, disent certains. Il peut être utilisé pour manipuler, pour flatter son orgueil, pour critiquer ton frère ou ta sœur en Christ, voire même pour détruire. Même la connaissance biblique peut avoir ses travers. Et là, je vous partage une anecdote que j'ai vécue. Quand j'ai terminé ma première année d'études de théologie, je suis retourné pour les vacances dans mon église d'envoi à Chambéry. Et j'étais surpris d'être accueilli par des gens que je connaissais très bien et qui m'ont dit « Ah, donc tu as étudié tel domaine. J'ai une question. Tu vas pouvoir me répondre. » Et en fait, je me suis senti tout de suite dépositaire d'un savoir que les autres cherchaient à avoir. Ça m'a flatté. Ça a gonflé mon orgueil. Ça m'a placé sur un piédestal. Quelqu'un d'important, lui, il sait. Oh, quel danger ! Quel danger ! Pourtant, on ne parle pas d'une connaissance qui est mauvaise, hein. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui nous anime ? En fait, ce qui fait ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous avons, la parole, le savoir ou autre chose. C'est ce qu'on en fait, ce qui nous anime. Je le redis, ce qui fait ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous avons, c'est ce qu'on en fait, ce qui nous anime. Troisième domaine, c'est la foi. C'est étonnant de voir ce thème ciblé par Paul. La foi, c'est bien. Pourtant, l'apôtre différencie la foi conviction de la foi confiance. C'est pas la même chose. On peut croire avoir la conviction et on peut croire en faisant confiance. Mais on peut avoir la conviction sans faire confiance. Paul différencie les deux. Oui, la foi est sans valeur si elle n'est pas une expression d'un amour pour Dieu et pour les autres. Si on n'aime pas le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et si on n'aime pas son prochain comme soi-même, tu as vraiment la foi ? On peut s'interroger. En effet, l'histoire nous a montré et nous montre encore aujourd'hui que par conviction et par zèle, des personnes ont joué un rôle en écrasant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Je pense là, par exemple, aux croisades. À cause de la foi, on va massacrer des gens. Alors, je parle des croisades pour les chrétiens, mais d'autres le font dans d'autres religions encore de nos jours. Finalement, les choses n'ont pas bien changé. Par ailleurs, par rapport à la foi, Jacques se veut un peu provocateur. N'est-il pas écrit « Les démons croient, eux aussi, ils ont la foi conviction, mais ils tremblent. » Quatrième domaine, les sacrifices. Là encore, ce choix de l'apôtre est étonnant. Il y a de quoi interroger le lecteur, parce que les sacrifices ne sont-ils pas l'expression d'un amour ? Ah bah, on pourrait le penser. Mais une bonne œuvre n'est pas nécessairement la preuve d'une bonne attitude de cœur. Un commentateur que je lisais pour préparer le message évoquait par exemple le cas de la philanthropie. Elle satisfait un grand nombre de besoins, mais elle peut être le fruit de l'orgueil et de l'arrogance. Elle peut aussi être accomplie avec le désir de se faire féliciter ou encore de calmer sa conscience. Par ailleurs, ce même commentateur rappelait à juste titre que les cimetières sont remplis de soldats qui ont consenti au sacrifice ultime, sans nécessairement avoir agi par amour. Ou encore, des terroristes qui se font sauter leurrés par de fausses promesses d'un paradis qui assouvirait leurs désirs égoïstes. Tout ce que mentionne Paul est utile, mais leur valeur dépend des raisons et de l'amour de celui qui les pratique. Et oui, c'est ça qu'il faut regarder. Ça pose la question de notre motivation. Qu'est-ce qui nous anime ? L'amour agapé, c'est aimer non pour nous mettre en avant, non pour en tirer une gloire, non pour avoir ce que les autres n'ont pas. C'est au contraire ce qu'en dit l'apôtre Paul encore, mais cette fois-ci, aux Philippiens, s'il veut bien venir. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ça pourrait être une vision d'Église. Avoir le même amour, une même pensée, tendre au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. En fait, être chrétien, c'est ça. C'est pas avoir de superbes dons. Aimer, mais comment ? Lisons un peu la suite, les versets 4 à 7, qui est probablement la partie du chapitre la plus connue. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Tiens, parallèle, hein. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère et il persévère. La description que fait Paul de l'amour semble assez simple. Mais la difficulté, elle réside dans la mise en pratique de cet amour décrit par l'apôtre. Je vous propose de nous arrêter sur différentes qualités que Paul dresse de l'amour. L'amour est patient. À première vue, on pourrait penser que l'apôtre parle de la capacité à attendre quelque chose, mais ce n'est pas exactement le sens du verbe grec. Il s'agit plutôt de la lenteur à se mettre en colère, à supporter avec indulgence les gens qui sont difficiles, qui sont pénibles. En fait, ça reflète un caractère de Dieu, lui qui est lent à la colère et riche en bonté. Se supporter même lorsque c'est difficile est la marque d'un travail sur soi et de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Cette patience-là, on peut la constater dans le couple. Pourquoi le parallèle est intéressant ? Là où, peut-être, la passion s'effondre, la patience qui supporte et qui cherche le bien de l'autre, qui ne répond pas par la colère, elle subsiste. C'est ce que j'appelle personnellement la prise de maturité dans l'amour. Cette transformation que l'amour subit. Deuxième qualité, l'amour n'est pas envieux. Si la jalousie peut être ciblée ici, paradoxalement, elle a sa place dans l'amour. Dieu n'est-il pas à la fois amour et un Dieu jaloux, nous dit l'Écriture. Mais Dieu est ainsi parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et donc logiquement, il n'accepte pas qu'on se tourne vers des idoles, quelles qu'elles soient. Évidemment, vous avez peut-être en tête les statuettes de d'autres religions, mais l'idole, ça peut être votre téléphone portable, hein. Ça peut être d'autres choses, l'argent, le pouvoir, etc., etc. Les Corinthiens glorifiaient les dons voyants, parfois même au mépris des autres. L'amour auquel Paul exhorte est un amour qui cherche toujours le bien de l'autre et jamais ce qui lui appartient. D'ailleurs, nous devrions nous réjouir de ce que Dieu accorde aux autres, ce qu'il ne nous accorde pas forcément, et nous devrions le glorifier pour cela. La suite de la description va d'ailleurs dans ce sens. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Nous n'avons pas à nous glorifier nous-mêmes, mais à glorifier Dieu seul, à lui seul soit la gloire. Nous n'avons pas à nous élever, mais à élever le Seigneur dans notre cœur. Car le Seigneur peut donner, mais il peut aussi reprendre. Troisième domaine, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne se comporte pas d'une manière indécente ou honteuse, et ça souligne la perception que les autres ont de nous. Plutôt que de regarder à soi, là on regarde, si je fais ça, qu'est-ce que va penser l'autre ? Pas dans le sens de notre monde, mais dans le sens de l'Église. Notre Église comporte des personnes de cultures bien différentes. Elles peuvent conduire à certaines attentes et à une vision des choses prédéfinies. Ainsi, nos différences peuvent engendrer des difficultés, comme par exemple être choqué par une attitude, réagir d'une manière inappropriée ou inversement ne pas obtenir la réaction que l'on attend. Ne rien faire d'inconvenant, c'est chercher chez l'autre ce qui peut être source d'incompréhension voire d'irritation afin de ne pas produire l'attitude normale pour les uns et inappropriée pour d'autres. On a tendance à attendre que les autres se plient à nos règles. Mais l'amour dont parle l'apôtre va à contre-courant de cette pensée autocentrée. C'est à moi de faire l'effort pour l'autre. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Mais ce n'est pas à sens unique. Chacun doit faire l'effort, celui d'apprendre à connaître, celui de s'intéresser, celui de pardonner en cas de dérapage, celui d'agir en fonction d'eux. Même en dehors de l'Église, l'amour que nous portons au Seigneur nous impose, nous oblige à ne pas agir d'une manière qui lui déplaît afin de préserver notre témoignage et le témoignage de l'Évangile. Vous avez peut-être déjà entendu ce type de remarque de la part d'un croyant, d'un incroyant. Lui, il se dit chrétien, mais si c'est ça être chrétien, franchement, ça ne vaut pas le coup. Autrement dit, moi, s'il me dit qu'il est chrétien, je vais attendre de lui qu'il a certaines valeurs. Mais s'il me montre qu'il n'en a pas, alors soit être chrétien, c'est nul, soit il est chrétien, mais vite fait. Le monde attend de nous le respect de valeurs. Agir comme le monde est donc un manque de considération envers celui qui nous a manifesté le plus grand amour. Ainsi, il en va de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes. En fait, les deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quatrième qualité, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. D'une façon générale, l'homme est par nature et depuis sa naissance un être essentiellement égocentrique. Moi, 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 je. Notre vieille nature nous pousse à aimer notre personne plus que nous aimons les autres. Et là, l'amour dont Paul nous parle, c'est un changement de logiciel. C'est celui de chercher l'intérêt de l'autre. Souvenez-vous, Philippiens 2, 4, 5, que nous avons lu précédemment. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alors attention, ce n'est pas une invitation à la naïveté. L'amour dont nous parle l'apôtre ne s'inscrit pas dans le soupçon, dans la méfiance. Il s'inscrit plutôt dans une volonté à voir le bien dans l'autre et non tout de suite le mal qu'il pourrait tirer de telle ou telle situation. D'autres comprennent qu'ils ne comptabilisent pas le mal. Ça soulève la question de ce qui nous anime. La rancune. Vous savez, ce fait de « Ah, lui, il a fait un truc, je vais rien dire. Je vais le garder, là. » Puis le jour où il vient me faire un reproche, « Ha ! Je ressors. Ha ha ! Mais souviens-toi, il y a quelques années, quand tu as… » Celui qui est animé par l'amour ne garde pas rancune. Il ne prend pas note de tous les torts qu'un autre a contre lui. Jésus a été un puissant témoignage de cette attitude. 1 Pierre 2, 23. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Voilà l'attitude que nous devons suivre. Autre qualité. L'injustice attriste l'amour, mais la vérité le réjouit. L'amour que nous avons pour Dieu équilibre notre perception de la justice. Il ne s'agit donc pas de faire preuve de souplesse, mais plutôt de justesse. Pas de souplesse, mais de justesse. Non d'après les standards des hommes, mais selon les standards de Dieu. La justice de Dieu, pas la nôtre. L'amour que nous avons pour les autres produit la compassion et refuse d'accepter l'injustice sous n'importe quelle forme. Au contraire, recherchons le royaume de Dieu, vous connaissez, et sa justice afin de vivre dans nos cœurs, mais aussi de la proclamer dans ce monde corrompu. L'amour est donc une condamnation pour ceux qui manipulent la justice à des fins égoïstes et un appel à proclamer la vérité, même si elle ne nous est pas favorable. Ça, c'est dur, de dire la vérité quand elle ne nous arrange pas. Septième, en toute occasion, l'amour pardonne. Ah, le pardon, sujet difficile. Mais l'amour a un impact non négligeable. Et pour ceux qui ont été lésés, pour ceux qui ont fait du mal, en fait, pour les deux. En pardonnant, on se libère d'un poids. Et on rend aussi témoignage de celui qui nous a pardonné grâce au sacrifice de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. On peut traduire par « l'amour endure » ou « supporte tout ». Ce n'est rien de facile. Mais nous pouvons compter sur l'Esprit de Dieu pour œuvrer dans nos cœurs, pour nous façonner comme le potier qui travaille un vase d'argile. Huitième, l'amour fait confiance, il espère, il persévère. Comme dit précédemment, ce n'est pas que l'amour soit naïf ou crédule, mais c'est plutôt qu'il ne perd jamais espoir, qu'il est prêt à croire jusqu'au bout en quelqu'un et à le soutenir le plus longtemps possible. Plus encore, il persévère. La persévérance, mais c'est là encore la marque du croyant. Il persévère dans la foi, Il persévère dans l'amour pour son Dieu, il persévère dans l'amour pour les autres, tout comme la sagesse. L'amour est la source de l'effort, mais aussi son accomplissement. L'amour est la source de l'effort, mais aussi son accomplissement. En conclusion, aimer en tant que chrétien est l'attribut par excellence qui doit nous caractériser. Quel type d'amour pratiquons-nous? Plutôt éros, plutôt philia, ou plutôt l'amour agapé qui cherche l'intérêt de l'autre en toutes circonstances? Alors, on dit parfois qu'on peut écrire de belles conclusions, mais si d'autres ont fait mieux, on peut leur emprunter. Et qui a fait mieux? Évidemment, la parole de Dieu. L'apôtre Paul aux Colossiens dit ceci. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Ah, ça reprend les caractéristiques qu'on vient de voir. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Amen.